Terroir Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 7h en temps universel. Merci de nous rejoindre pour Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Au micro, Nanit Talani. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 17 octobre 2023, Robert Begré-Mombé, nouveau Premier ministre ivoirien, fait appel à Dieu pour bien diriger le pays. Au Mali, la MINUSMA se retire de deux camps à Kidal. Au Nigeria, le gouvernement offre des mariages à 1800 couples pauvres. Biden attendu en Israël pour soutenir l'État hébreu face aux attaques du Hamas et tenter de débloquer l'aide humanitaire pour Gaza. Ici aux États-Unis, vote crucial aujourd'hui pour élire le président de la Chambre des représentants alors que Donald Trump est de retour à son procès pour fraude financière. Dans la partie magazine, nous irons au Burkina Faso pour les hommages au capitaine Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé. Et n'oubliez pas d'environ 10 minutes vos rendez-vous habituels avec les nouvelles sportives et l'économie. En attendant le journal. Robert Begré-Mombé, nouveau Premier ministre de Côte d'Ivoire, a prononcé son premier discours hier dans lequel il a exprimé sa gratitude au président Ouattara pour sa nomination ainsi que son admiration pour ses prédécesseurs. Il a également fait appel à Dieu pour lui donner la force et la sagesse nécessaires pour diriger le pays et l'aider à faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et de prospérité. On l'écoute.
À ce poste, je me souviens que mes frères Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. C'est pourquoi je demande au Seigneur de les bénir et d'accorder la paix à leurs âmes et que leur famille soit bénie abondamment. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Fouvoigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur 5 choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin. La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont les ciments qui nous unissent entre nous Ivoiriens. Je vous remercie.
Robert Begré-Mombé, nouveau Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Au Mali voisin, la MINUSMA annonce avoir commencé hier à se retirer de deux de ses camps dans la région de Kidal, théâtre d'une escalade opposant l'armée à des rebelles touaregs. Les détails avec Rosine Mounezero.
La MINUSMA a entamé le processus de retrait de ses camps dans la région de Kidal, en commençant par ceux de Tessali et Aguelhok, a dit la mission onusienne dans un communiqué, ajoutant qu'elle pourrait accélérer son retrait d'un troisième camp de Kidal. L'armée malienne, anticipant le départ des casques bleus, a fait atterrir à Tessali 2 avions qui ont essuyé des tirs attribués aux rebelles. Les appareils transportaient des soldats maliens et des instructeurs russes. Le camp de la MINUSMA, occupé surtout par des Tchadiens, est situé à proximité de cet aéroport. L'armée malienne a dit qu'un seul avion a été visé, mais qu'il a pu s'opposer et repartir sans difficulté, ajoutant que l'aviation avait neutralisé les positions ennemies. La MINUSMA, qui doit quitter le pays d'ici au 31 décembre, a transféré depuis août 4 camps aux autorités maliennes. Mais l'évacuation des camps de la région de Kidal et celui de Kidal même, chef de rebelles Touareg, s'annonce à haut risque. Les rebelles s'opposent à ce que la MINUSMA remette les camps aux autorités maliennes.
Au Nigeria, le gouvernement de l'État de Kano a organisé un mariage collectif pour 1800 couples pauvres. Cette initiative vise à aider les plus démunis à se marier dans un pays où la crise économique a rendu les mariages inaccessibles pour beaucoup. Les mariages ont eu lieu vendredi dernier dans une mosquée de Kano. Ils ont été financés plutôt entièrement par le gouvernement de l'État. Les couples ont reçu une dot de 50 000 naira, des meubles et des denrées alimentaires. Les épouses ont reçu de leur part une subvention de 20 000 naira pour lancer des petites affaires.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden se rend demain mercredi en Israël, une visite de solidarité face à l'attaque du Hamas. Il va aussi tenter de débloquer l'acheminement de l'aide vers la bande de Gaza, assiégée depuis plus d'une semaine par l'armée israélienne après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Cette visite de Joe Biden en Israël a été annoncée par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, à l'issue d'une nuit d'entretien marathon à Tel Aviv avec le premier ministre Benjamin Netanyahou. L'Iran a menacé d'une possible action préventive contre Israël si le pays maintient son projet d'offensive terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. Le président américain va aussi rencontrer le président égyptien, le roi de Jordanie et le chef de l'autorité palestinienne à Amman, selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby. Le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, a affirmé que la visite de Biden ne remet pas en cause l'offensive terrestre contre le Hamas, qui a enlevé 199 personnes lors de l'attaque selon Israël. Le groupe islamiste palestinien évoque 200 à 250 otages à Gaza et fait état de 22 otages tués lors des raids israéliens. L'OMS a averti lundi d'une catastrophe humanitaire imminente. Il reste 24 heures d'eau, d'électricité et de carburant à Gaza. Et si de l'aide n'y entre pas, les médecins n'auront plus qu'à préparer les certificats de décès, a déclaré Ahmed Al-Mandari, directeur de l'OMS pour la Méditerranée orientale basée au Caire. Lundi soir, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté une résolution proposée par la Russie pour un cessez-le-feu humanitaire. La bande de Gaza est placée en état de siège complet depuis le 9 octobre par Israël, qui a coupé les approvisionnements en eau, électricité et nourriture.
Ici, aux États-Unis, la Chambre des représentants cherche toujours un nouveau président avec un vote prévu aujourd'hui en séance plénière. L'institution est paralysée par une querelle intestine entre républicains. Les détails avec Alexandrine Holunion.
Après une semaine sous haute tension marquée par de nombreux rebondissements, l'élu de l'Ohio, Dean Durden, proche de Donald Trump, est le seul candidat républicain en lice. « Nous devons tous rester unis et nous remettre au travail », a plaidé le quinquagénaire. Le vote sur sa candidature est prévu en séance plénière aujourd'hui à 12h locale, 16h temps universel. L'élu ne dispose pas en l'état du soutien de tous ses pairs républicains pour accéder au perchoir avec les 217 voix nécessaires. Cependant, plusieurs modérés qui s'étaient opposés à sa candidature jugée trop à droite sont rentrés dans le rang hier. Le groupe parlementaire a tenu une énième réunion à huis clos avec l'espoir d'enterrer la hache de guerre. Illustration de la tension qui règne sur les tractations, tous les portables ont été interdits à l'intérieur de la salle. Les pouvoirs du Congrès ont été suspendus depuis la destitution surprise du speaker Kevin McCarthy le 3 octobre. Pas de speaker, pas d'enveloppe pour l'Ukraine, ni aide à Israël. Encore moins un vote sur le budget de l'État fédéral qui expire le 15 novembre.
Donald Trump revient ce mardi assister à New York à son procès civil pour des fraudes financières présumées. L'ancien président américain de 77 ans s'était déjà rendu début octobre à l'ouverture de ce procès dans lequel il est accusé avec deux de ses enfants, Eric et Donald Jr., d'avoir surévalué de plusieurs milliards de dollars ses golfs, résidences et gratte-ciel new-yorkais pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Rosine Mounezero.
Au Mali, la production industrielle d'or devrait atteindre, voire dépasser les 67,7 tonnes prévues pour 2023, selon un responsable du ministère des Mines. La production d'or des mines, principalement détenue par Barrick Gold, B2Gold, Resolute Mining, Allied Gold et Endeavour Mining, s'est levée à 45,4 tonnes fin août, dépassant la prévision initiale de 43 tonnes, a déclaré à Reuters le département des statistiques du ministère des Mines. Au Nigeria, l'inflation annuelle a augmenté à 26,72% en septembre, soit son plus haut niveau depuis environ deux décennies, a déclaré le Bureau national des statistiques. L'inflation alimentaire a augmenté à 30,64% contre 29,34% en août. Par ailleurs, Abuja a approuvé le projet d'emprunt de 1,5 milliard de dollars auprès de la Banque mondiale et un financement de 80 millions de dollars de la BAD pour soutenir les jeunes dans l'état d'Ekiti, a déclaré lundi son ministre des Finances. Bill Ford, arrière-petit-fils du fondateur du constructeur automobile Ford et président de son conseil d'administration, a lancé un appel au syndicat des travailleurs de l'automobile pour mettre un terme à leur grève. Ford, General Motors et Stellantis sont touchés depuis mi-septembre par une grève mobilisant près de 34 000 employés sur les 146 000 membres du syndicat des travailleurs de l'automobile aux États-Unis.
À présent, les nouvelles sportives avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Nanit.
Athlétisme pour commencer, le marathonien kényan Ekiru suspendu pour dopage.
Titus Ekiru, vainqueur du marathon de Milan en mai 2021, a écopé de 10 ans de suspension pour dopage et obstruction à l'enquête, a annoncé lundi l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'athlète de 31 ans a été testé positif à une substance dopante après sa victoire surprise à Milan, où il venait de remporter le marathon en un temps canon de 2h2min57s. Il avait affirmé que cette anomalie résultait d'un traitement médical légal pour ses blessures. Athlète méconnu, Ekiru avait surpris les spécialistes de l'épreuve avec un temps exceptionnel au niveau de l'ancien record du monde de son compatriote Denis Kimeto.
En football, l'Espagne, l'Écosse et la Turquie qualifiés à leur tour pour l'Euro 2024.
Ces pays ont décroché dimanche soir leur billet pour l'Euro 2024 de football qui se disputera l'année prochaine en Allemagne. Le trio rejoint le pays organisateur ainsi que la France, la Belgique et le Portugal, et aussi assuré d'être du voyage en s'imposant 1-0 en Norvège. L'Espagne a obtenu la garantie de finir à l'une des deux premières places du groupe A. L'Écosse, qui ne jouait pas, en profite elle aussi. Dans le groupe D, la Turquie a obtenu son ticket pour l'Allemagne en dominant la Lettonie 4-0. Cette qualification boucle une semaine mémorable pour le football turc, qui a été désigné pour organiser conjointement avec l'Italie l'Euro 2032. Dans l'autre match du groupe D, joué dimanche, le pays de Galles, vainqueur 2-1 de la Croatie à Cardiff, est désormais maître de son destin avant les deux derniers matchs éliminatoires en novembre. La Croatie, demi-finaliste du mondial au Qatar l'an dernier, enchaîne, elle, une seconde défaite d'affilée et se retrouve en danger et n'a plus manqué de compétition internationale majeure depuis la Coupe du Monde de 2010. Le match entre le Kosovo et Israël, initialement programmé dimanche, a été reporté par l'UEFA en raison de l'impossibilité pour l'équipe israélienne de se déplacer. Et c'est tout pour l'espoir.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani, toujours avec vous. Maintenant, notre section magazine. Les États-Unis ont renouvelé leurs appels pour que les civils innocents fuyant la guerre entre Israël et le Hamas soient protégés et que leurs besoins essentiels soient satisfaits. Par ailleurs, par crainte d'un conflit régional plus large, un sénateur américain a lancé un avertissement sévère contre l'Iran et la milice libanaise Hezbollah. Les explications de Veronica Balderes Iglesias de la VOA, le récit est de Gaby Dorsil.
Les forces de défense israéliennes ont souligné leur détermination à détruire le Hamas dans son intégralité suite à l'incursion meurtrière du groupe militant en Israël le 7 octobre. Elles ont également renouvelé leurs appels aux civils palestiniens pour qu'ils évacuent la partie nord de Gaza avant que les frappes israéliennes ne s'intensifient. Le porte-parole des FDI, le lieutenant-colonel Peter Lerner, a été interviewé sur la chaîne télé ABC.
Nous constatons que les gens évacuent effectivement. En effet, nous aimerions voir les organisations humanitaires aider à l'évacuation des personnes pour leur bien-être et ne pas se ranger du côté du Hamas qui leur dit de ne pas évacuer.
Plus d'un million de civils palestiniens tentent de se mettre à l'abri. Les États-Unis travaillent avec leurs partenaires pour s'assurer que les besoins humanitaires des personnes déplacées sont satisfaits, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, lors de l'émission This Week, également sur ABC.
Nous sommes en contact avec nos homologues israéliens, avec les Nations Unies, pour aider à assurer l'approvisionnement nécessaire en nourriture, en eau et en médicaments pour les citoyens de Gaza, ces Palestiniens qui n'ont rien à voir avec les terroristes barbares qui ont perpétré cette attaque.
Les échanges de tirs se sont poursuivis ce week-end à la frontière israélienne avec le Liban, où opère le Hezbollah, une milice soutenue par l'Iran. Le sénateur républicain Lindsey Graham, qui prévoit de se rendre dans la région dans les prochains jours avec un groupe de collègues démocrates et républicains, a lancé une sévère mise en garde contre Téhéran et ses alliés qui auraient l'intention de jouer un rôle plus actif dans le conflit.
Si le Hezbollah, qui est à la solde de l'Iran, lance une attaque massive contre Israël, je considérerai qu'il s'agit d'une menace existentielle pour l'État d'Israël. Je présenterai une résolution au Sénat américain pour permettre une action militaire de la part des États-Unis en collaboration avec Israël afin d'éliminer l'Iran du marché du pétrole. Iran, si vous intensifiez cette guerre, vous deviendrez notre cible.
Dans le cadre d'une tournée régionale visant à désamorcer les tensions, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré dimanche le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi. Ils ont tous deux convenu de l'importance de garantir l'assistance aux civils palestiniens fuyant la guerre, selon le porte-parole Matthew Miller. Anthony Blinken poursuit ses consultations avec les dirigeants de la région.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal Plus dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Après le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, de nombreux chefs de diplomatie se sont également succédés au Caire ainsi qu'en Israël. Tous appellent à mettre fin au conflit, à éviter son débordement régional et dans l'immédiat à dégager des corridors humanitaires et des passages pour l'aide vers la bande de Gaza, bombardée sans relâche par Israël. l'Égypte tient l'unique terminal vers et depuis Gaza qui n'est pas contrôlé par Israël. Pour en parler, Eric Manirakiza a joué au Caire le journaliste Mohamed El Sayed El Azawai.
On est tellement triste, déprimé au Proche-Orient quand on voit ces scènes de violence vis-à-vis des civils, précisément femmes et des petits enfants.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est passé au Caire et a rencontré le président Al-Sisi. Qu'est-ce que les autorités égyptiennes ont promis à Monsieur Blinken?
Le président Sisi a dit clairement que l'Égypte soutient les Palestiniens et la cause palestinienne et établir et instaurer la paix selon les lois des Nations Unies qui consistent à établir deux États indépendants qui vivent côte à côte en plein paix et en pleine sécurité. Pour faire ça, il faut toujours mettre en considération les innocents civils palestiniens. Pour délivrer, pour faire accéder les aides humanitaires pour les Palestiniens qui souffrent maintenant actuellement du bombardement, l'Égypte a précisé qu'il faut faire entrer les aides humanitaires pour le peuple palestinien. Mais également, on est prêt à recevoir les ressortissants américains et étrangers entre guillemets qui veulent traverser vers l'Égypte pour retourner vers leur pays. Et également, le président Sisi a dit clairement que toute résolution et toute solution de cette crise et ce problème ne doit être jamais mise au détriment de l'Égypte ni au détriment des droits légitimes des Palestiniens. Il y a des négociations en cours entre l'Égypte et les États-Unis et les Palestiniens et Israël pour trouver, on dit, un consentement, un consensus pour faire entrer les aides humanitaires. En même temps, l'Égypte est complètement contre toute immigration. Comme on dit, le transfert du peuple palestinien vers le Sinaï, l'Égypte est complètement contre cette option et a rejeté ça ouvertement.
L'Égypte a proposé un sommet régional international sur l'avenir de la cause palestinienne. Ce sommet va se tenir samedi, mais ce n'est pas pour occulter les crimes commis par le Hamas.
Ce qui a fait Hamas avec les Israéliens, pour nous, en tant qu'Arabes, on est complètement contre les actes de violence contre les civils des deux côtés. Mais ce qui s'est passé, c'est la cause d'une accumulation de souffrance d'un peuple qui a longuement souffert. Ça fait plus de décennies. Des décennies, ils ont souffert pour des actes, comme on l'appelle, des pratiques du côté israélien. C'est le résultat d'une accumulation des années de souffrance. L'Israël a droit de se défendre, de se protéger, c'est clair. Mais il a également procédé à des pratiques violentes contre les Palestiniens, ça fait déjà des décennies.
C'était le journaliste Mohamed El Sayed El Azawai, joint au Caire.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria.
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Au Burkina Faso, voilà maintenant 36 ans que le père de la révolution, Thomas Sankara, a été assassiné. C'était exactement le 15 octobre 1987. Et hier, le pays a commémoré cet anniversaire. Plusieurs hommages ont été rendus au capitaine Sankara de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Au mémorial Thomas Sankara, situé en plein cœur de Ouagadougou, au Conseil de l'Entente, c'est où le capitaine Thomas Sankara a été assassiné le 15 octobre 1987. Et c'est aussi là qu'un hommage lui a été rendu. Le capitaine Ibrahim Traoré est lui-même présent. Les partisans du capitaine Thomas Sankara estiment qu'il a été un homme digne qui s'est sacrifié pour son peuple. Passambe Sawadogo dit Océan, musicien, sympathisant de Sankara.
J'ai au moins
deux chansons consacrées à Thomas Sankara. En tout cas, je ne fais pas un album sans faire un clin d'œil à ce grand homme Thomas Sankara. Le 15 octobre est une date, en tout cas, à sentiment, j'allais dire contradictoire pour ne pas dire entremêlée. Autrefois, cette date était une date de douleur, de tragédie. Mais maintenant, nous voyons que c'est une date d'espérance pour le peuple burkinabé, le peuple d'Afrique et le peuple du monde.
Fatou Sourati, une militante de la société civile, elle se présente comme une héritière de Thomas Sankara.
Je suis héritière de Sankara parce que je suis née sous la Révolution. J'étais bébé sous la Révolution, j'avais 2 ans sous la Révolution. Mais j'ai appris à connaître l'homme. Et quand on l'a assassiné en 87, avant son assassinat, il a dit « Tu es Sankara, des milliers de Sankara naîtront ». Moi, j'étais déjà née et j'ai grandi dans cet héritage-là et je m'accapare en fait cet héritage. Donc voilà pourquoi je me présente comme héritière du capitaine Sankara.
Thomas Sankara a été élevé au rang de héros national par le capitaine Ibrahim Traoré. Luc Damiba, secrétaire général du comité international mémorial Thomas Sankara.
C'est d'abord une injustice faite à Thomas Sankara, le paré, de 36 ans. Il y a à peu près moins de 36 ans, son tombeur avait promis une tombe digne de son nom. Son tombeur avait promis de l'élever au rang de héros de la nation. Pendant 27 ans, rien n'a été fait. Au contraire, tous ceux qui voulaient parler de Sankara étaient persécuté. Aujourd'hui, nous sommes heureux que Sankara renaît, que désormais, c'est le siècle de Sankara qui s'ouvre. Parce que là, où il était, au 20e siècle, il est arrivé. Il a eu un impact pour sa génération de 4 ans. Mais son acte de 4 ans va rester indélébile pour des centaines d'années.
Le président de la transition a lancé les travaux de la construction du prochain mausolée dédié à Thomas Sankara et ses 12 autres compagnons assassinés. Au moins une quinzaine d'infrastructures seront réalisées pour le compte du mémorial Thomas Sankara. Une des principales avenues de la capitale qui portait le nom de Charles de Gaulle a été débaptisée et rebaptisée Thomas Sankara. Lamine Traoré, Ouagadougou, VO Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Et surtout, merci à Georges Léonard Sagnou pour la mise en onde avec l'assistance de Hamza. Nanit Talani à la présentation. Merci également à toute l'équipe de la rédaction de VOA Afrique. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos plateformes Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Excellente journée, à très bientôt.